Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour cette conférence. Merci à vous, Bruce Bégou, pour votre présence également et pour nous parler de votre dernier ouvrage, donc En escale, chronique aéroportuaire, donc édité aux éditions Philosophie Magazine. Donc même si très certainement vous êtes connu, je vais quand même vous présenter très brièvement. Donc vous êtes essayiste, vous êtes philosophe, plus exactement phénoménologue on pourrait dire, également écrivain et professeur de philosophie à l'université Michel de Montaigne, et il me semble que vous dirigez une collection peut-être toujours encore, Matière étrangère, aux éditions Vrin. Donc une petite collection qui se permet des hors philosophie avec des sujets un peu du quotidien, c'est un peu ça. Pour rappeler certaines de vos œuvres aussi, peut-être que ça va faire des piqûres de rappel à certaines personnes qui vous ont peut-être déjà lu. Il y avait Zéro Police, qui était un essai sur Las Vegas, sorti aux éditions Alia en 2002. Il y avait Lieu commun, c'était sur le motel américain, cette fois-ci toujours chez Alia, De la décence ordinaire en 2008. Vous aviez aussi écrit un essai sur Duan Hanson, qui est un artiste sculpteur, plasticien, qui fait de l'hyperréalisme et qui lui-même aussi utilise un petit peu les codes type de l'Amérique grandiloquente. Vous avez aussi écrit des romans, il y avait Éblouissement des bords de route aux éditions verticales, Sphex à l'arbre vengeur, et Le Parc, et bon, tant d'autres, et l'année dernière, Sauvage aux éditions Fayard. Donc depuis plusieurs années, vous consacrez vos recherches et même votre imagination à ce que l'on pourrait nommer de cours ordinaire de la vie, peut-être aussi du quotidien ou d'une quotidienneté. Alors pas forcément une banalité, mais bien, enfin plutôt une familier, tout ce qui est familier, tout ce qui est de l'ordre de la familiarisation ou de la familiarité. Vous travaillez aussi sur les villes, sur l'urbanité, sur des lieux insolites. Et il y a une petite expression que j'ai notée, et François Angelier, qui vous avait interviewé il y a quelques années, et je trouve ça assez intéressant, il avait dit que vous décortiquez les imaginaires ultra-contemporains. Donc je trouve ça plutôt intéressant de le relever. Donc voilà, ma première question, alors c'est un peu plutôt sur toutes vos œuvres, en fait, littéraires, et peut-être un point commun aussi, qui est entre elles. Et, la comparaison avec ce voyageur un peu solitaire dont parle Charles Baudelaire dans la vie, dans le peintre de la vie moderne, c'est un contemplatif non-flâneur, doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'homme. Est-ce qu'on pourrait affirmer que vous aussi, vous cherchez ce quelque chose qu'on nous permettrait, à l'heure actuelle, d'appeler l'hypermodernité, avec ses mythologies ?
Je ne sais pas si je le cherche. C'est présent tout autour de moi. Je suis pas. Enfin, quand j'écris ces livres sur la ville contemporaine ou sur les espaces contemporains, je ne sais pas si je suis dans une attitude de chercher quelque chose. En fait, c'est ce qui me distinguerait de la figure du flâneur. En fond, le flâneur, il est toujours en quête du nouveau, en quête de l'étrange, en quête du surprenant. Moi, au fond, je n'ai aucune attente de ce type-là. Donc, je ne voyage pas pour être surpris ou je ne m'intéresse pas à ces lieux pour être décontenancé. Donc, il n'y a pas de quête comme ça de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ordinaire dans l'ordinaire. Enfin, c'est donc plutôt que de rechercher, au fond, parce que rechercher, ça devrait dire, au fond, qu'on ne connaît pas cette chose. Non, je les connais trop bien, mais en fait, Wittgenstein disait, au fond, la philosophie, c'est connaître ce que l'on connaît. Enfin, parce que, donc, on connaît les choses, mais on ne les connaît pas vraiment. Et donc, mon travail, c'est, d'essayer de réfléchir sur ce que l'on croit connaître et que l'on ne connaît pas vraiment. Par exemple, ces espaces comme les aéroports, etc. Donc, dans ces travaux sur les espaces contemporains, sur les villes contemporaines, il n'y a pas d'attitude, je dirais, surréaliste, quoi. C'est-à-dire d'aller chercher, comme Aragon, d'aller chercher la surprise, l'inattendu. Bon, il peut arriver, et dans certains récits, j'ai décrit comme ça des événements surprenants qui me sont arrivés, et donc je ne les fuis pas. Hein, je suis pas dans une attitude comme ça d'exotisme à aller chercher l'ailleurs dans le même, etc. Donc au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contraire de l'exotisme. Enfin, d'ailleurs, dans cet essai, à un moment donné, je critique un peu ces récits de voyage où à chaque fois on nous fait miroiter le nouveau, l'étrange, etc. Bon, rien n'est plus facile, parce que, bon, bien évidemment, il nous arrive toujours quelque chose et on peut broder à partir de ce quelque chose-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Enfin, c'est pas cet écart, c'est pas ce basculement dans l'étrange, c'est tout le contraire. Enfin, c'est l'enlisement plutôt dans un quotidien, dans l'ordinaire, dans le familier.
Et alors là, cette fois-ci, après avoir travaillé justement sur les motels ou par exemple sur Las Vegas ou même à travers vos romans aussi sur une morgue qui devient plus une sorte de boîte un peu de nuit. Là, cette fois-ci, vous prenez aussi quelque chose de très concret, c'est l'aéroport ou même l'escale en fait. Donc l'escale qui renvoie à un sens d'arrêt, un arrêt en cours de route, ou autrement même un relâchement. On dit, on arrive à l'escale, on finit quelque chose. Et alors, pourquoi vous êtes attaqué à ce sujet? Alors, pas attaqué, comme je disais, c'est peut-être pas forcément le mot. Oui. Arrêter conviendrait peut-être plus. Mais pourquoi ce sujet, alors?
Ah, de manière très factuelle, c'est une commande au départ. Donc, au départ, je n'avais pas l'intention d'écrire sur les aéroports, même si j'aurais pu écrire sur les aéroports, parce qu'au fond, plusieurs livres, que ce soit de fiction ou d'essai, traitent des espaces contemporains et même du voyage, du déplacement, de la mobilité, du transit. Donc, d'une certaine manière, les aéroports sont... D'ailleurs, je n'ai pas souvenir si dans... certains textes, j'en traite, ou alors c'est vraiment un arrière-plan comme ça. Donc au départ, ça a été une proposition de Philosophy Magazine d'écrire un article, en fait, pour le magazine, sur l'aéroport contemporain. Et puis finalement, au départ, j'ai dit plutôt non, parce que j'avais pas le temps, tout ça. Et puis ils ont insisté, et puis là, j'ai dit plutôt oui, mais alors j'aurais dit, mais le problème, c'est qu'au fond, je vais avoir quand même beaucoup de choses à dire, et ça va peut-être déborder le cadre de l'article. Et donc, ensuite, ça a enchaîné sur une proposition d'un voyage. Ils m'ont dit, mais... on va vous envoyer, en fait, si vous voulez bien, vous partez comme ça pendant 10 jours et vous voyagez d'aéroport en aéroport sans sortir des aéroports. Et au fond, la matière de l'essai, ce sera à la fois le récit de ce voyage et en même temps toutes vos réflexions sur ces espaces-là. Donc au départ, ça a été plutôt une proposition extérieure. Mais comme bien évidemment, j'avais déjà... Alors forcément, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai transité par beaucoup d'aéroports de par le monde, et puis je me suis aussi quand même intéressé à l'espace hyper contemporain comme ça. Donc forcément, c'était un objet que j'avais déjà rencontré et que j'aurais sans doute peut-être traité, même s'il n'y avait pas eu cette proposition là. Donc au fond, ça a été une sorte d'opportunité que j'ai saisie, parce que bien évidemment, j'avais déjà un peu de la matière. Personnel sur mais ça a été quand même plutôt au départ une sorte de sollicitation et au début donc en fait il y a eu deux parties pour écrire le livre. Je dirais plutôt la partie où j'ai sollicité ma mémoire, mes réflexions, mes enquêtes sur l'aéroport du point de vue historique, du point de vue architectural, du point de vue de la sociologie, etc. Et puis le voyage lui-même, qui a consisté comme ça à partir de Bordeaux et revenir à Bordeaux en partant à Paris, Istanbul, Amman, Dubaï, Bangkok, Amsterdam et retour. Voilà. Donc ça a été un peu ça l'origine du livre. Ouais.
Et alors l'aéroport, c'est effectivement, on en a tous une image un peu réductrice ou tout au moins stéréotypée ou standardisée. On voit souvent ça comme un lieu seulement de passage, un lieu un peu grandiloquent qui serait statique dans une sorte d'écrin de pierre ou de métal démesuré. On pense tout de suite aux vitrines de luxe aussi, on pense aux longs couloirs, aux longues attentes, à la détox aussi, au niveau de l'alcool, le parfum, enfin tout ce genre de produits. Et vous dites donc que c'est l'emblème de la modernité ou de la surmodernité aujourd'hui. Enfin, vous laissez plus ou moins sous-entendre ça. Est-ce qu'il serait comparable, selon vous, au centre commercial, on en a parlé un peu avant, le centre commercial, ce qu'il a été aussi dans les années peut-être 40, dans les années 50, où beaucoup d'écrivains se sont intéressés aussi à ça, beaucoup de philosophes, des photographes, des artistes. Est-ce que c'est un peu la surenchère, en fait, ou le plus
Oui, il est évident que bon, ce qu'on appelle la modernité, au fond, toutes les transformations sociales, techniques, politiques que nous vivons depuis deux siècles, depuis la Révolution française et depuis la Révolution industrielle. Donc, évidemment, notre monde s'est transformé d'une manière incomparablement spectaculaire par rapport à un homme du XVIIIe siècle. Bon, grosso modo, il vit à peu près comme un homme du milieu du Moyen-Âge, un paysan. Il y a eu quelques évolutions techniques, etc. Mais si on faisait une sorte de fiction philosophique, on prend quelqu'un du XVIIIe siècle, on le transplante au VIIIe siècle, il comprend à peu près comment ça fonctionne. Si on prend cet homme du XVIIIe siècle, qu'on le met de nos jours Mérignac-Soleil, bon, là, ça va être un peu plus délicat. Donc, bien évidemment, depuis deux siècles, nous avons vécu une transformation radicale des modes de vie, de la conquête de l'espace, du temps, des territoires, dont nous payons aussi les conséquences climatiques, etc. Mais enfin, et l'aéroport, qui, lui, au fond, apparaît bien évidemment avec l'aviation, c'est un emblème de cette transformation hypermoderniste et c'est un lieu à la fois réel, pratique, gigantesque et puis fantasmatique. C'est-à-dire qu'il a nourri d'emblée une sorte d'imaginaire, de fantasmes, de désirs, de projections d'artistes, d'architecture, d'architectes utopistes, etc. Et donc, évidemment, c'est un lieu intéressant pour décrire notre modernité parce que c'est un lieu qui à la fois sollicite la technique, sollicite l'économie. C'est un lieu très important pour le développement économique des villes, des pays, sollicite l'imaginaire, les peurs, etc. Et sans doute plus que le centre commercial, il y a en lui une sorte de nœud comme ça, de différentes pratiques, différents enjeux qui en fait sans doute oui un des lieux les plus caractéristiques de notre temps et de ces évolutions aussi, parce qu'à travers l'évolution des aéroports, on voit bien évidemment l'évolution, notre propre évolution à l'ère moderne. Parce qu'au fond, au départ, les aéroports sont essentiellement des lieux militaires. Ensuite, ils deviennent pour le trafic des passagers commerciaux, et puis ils deviennent des vitrines commerciales, etc. Donc c'est une manière, au fond, de parler de nous à travers les lieux, et à travers un des lieux sans doute les plus emblématiques. Pourquoi emblématiques ? Parce que, bien évidemment, les villes, les pays font des aéroports eux-mêmes un emblème, c'est-à-dire un symbole de leur réussite. La première chose que l'on voit souvent d'un pays, c'est son aéroport. Enfin, on entre dans un pays par l'aéroport. Enfin, à part si, bien évidemment, on prend sa voiture... Mais même en Europe, enfin, on peut très bien ne pas aller au Portugal en voiture et aller en aéroport. Donc, la première chose que l'on va voir de Lisbonne, c'est son aéroport, etc. Donc, les villes comme les pays utilisent les aéroports comme des vitrines spectaculaires où l'aéroport est investi d'un rôle symbolique, économique, de réussite, de gloire, de fierté. Et par exemple, bon, Orly, enfin, j'ai relu des textes sur Orly dans les années 60, voilà, c'était vraiment. La vitrine Orly, par exemple, dans les années 60, était un lieu qui était le week-end plus fréquenté en visite touristique que le château de Versailles, que la tour Eiffel. Les gens allaient à Orly, pas pour prendre des avions, mais pour voir ce lieu, etc.
Pour voir les avions décoller. Voilà.
Oui, pour voir les avions décoller. D'ailleurs, ça a été interdit après, puisqu'il y a eu un attentat dans les années 70 sur la terrasse d'Orly. Elle a été fermée, ce que je trouve un peu stupide, parce qu'il y a des attentats, comment s'empêcher. Mais de fait, maintenant, on ne peut plus aller sur les terrasses, etc. Bon, on nous prive quand même d'un plaisir qui est de voir les avions décoller, etc. Et de voir aussi l'aéroport lui-même, parce qu'au fond, on ne voit pas les aéroports. Enfin, souvent, on arrive dans un bus ou dans un train ou dans un métro, on entre dans l'aéroport, on prend l'avion et on décolle. On ne voit pas l'aéroport. Enfin, c'est un lieu gigantesque, mais invisible. Quoi. Ça, c'était aussi un des paradoxes qui m'a surpris au départ quand je me suis intéressé à l'aéroport. Au fond, bon, c'est l'aéroport est toujours comme ça, une sorte de présence massive en arrière-plan, comme une ombre qui nous couvre, mais que l'on ne voit pas. Et donc, mon rôle, c'était aussi de les voir. Mais c'est vrai qu'il y a peu de possibilités de les voir, parce qu'il faudrait s'arrêter 500 mètres avant l'aéroport pour le voir, mais souvent, bon, Encore une fois, on arrive par taxi ou par train, etc. Et même parfois, on ne sort même pas à l'air libre. Hein. C'est à Roissy, vous arrivez avec le RER, etc. Vous rentrez dans l'aéroport, vous rentrez ensuite dans votre avion. Et en fait, vous n'avez pas vu Roissy. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. Et donc, il faudrait voir des... Alors que c'est très spectaculaire. Hein. Ce sont des spirales comme ça. Donc, oui, c'est des lieux vraiment caractéristiques de notre temps. Et c'est intéressant parce qu'il conjugue différents aspects, donc on peut les aborder sous différents points de vue et voir un peu ce que nous sommes et ce que nous devenons à travers l'évolution des aéroports. Et souvent, moi je me suis intéressé, bien évidemment, à la modernité, mais je parle peu des gens directement, je parle des lieux et à travers les lieux, j'essaie de comprendre ce que nous sommes, vous voyez, donc à travers Las Vegas, à travers le motel, à travers les banlieues, etc., et les lieux... au fond, les lieux pour moi sont des visages, quoi. Donc, mais plutôt que de parler directement de nous, humains, etc., j'en parle à travers les lieux, les objets qu'ils utilisent et qui sont le reflet de ce que nous sommes. Donc, l'aéroport, au fond, oui, c'est un miroir. Enfin, c'est un miroir gigantesque et démultiplié de différents aspects de notre époque, la consommation, la mobilité. L'enfermement, la fonctionnalité, le gigantisme, etc. Donc, c'est des lieux assez fascinants pour ça.
Tout est concentré dans ce même lieu. Non ? Parce que vous parlez aussi.
Oui, c'est des lieux, au fond, qui concentrent différentes fonctions. D'ailleurs, ce sont quasiment des villes. Enfin, on pourrait. Toutes les fonctions, à peu près, d'une ville sont dans l'aéroport. Donc, on peut y dormir, on peut y travailler, on peut consommer, on peut s'y amuser, on peut s'y marier, on peut prier, on peut y dormir, on peut y mourir, on peut y être soigné. Enfin, à peu près toutes les fonctions habituelles d'une ville sont respectées dans un aéroport. Et les aéroports, d'ailleurs, eux-mêmes, au fond, se voient comme des villes. Enfin, se revendiquent le statut de cité. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au départ, quand on regarde l'imaginaire de l'aéroport, au départ, les villes fantasment des aéroports intégrés totalement à la ville. Donc, si on regarde l'histoire de l'aéroport et surtout l'histoire des représentations de l'aéroport... Mais les premiers, au fond, les premiers architectes ou les premiers artistes qui imaginent les aéroports, ils sont très souvent placés dans les villes. C'est-à-dire qu'on va placer l'aéroport, par exemple, il y a eu un projet à Paris où, au fond, l'aéroport était imaginé avec des barges sur la Seine et les avions allaient atterrir sur les barges sur la Seine. Ou en haut des immeubles, c'est-à-dire à New York de la même manière, à Londres, etc. Puis, bien évidemment, pour des raisons techniques et de sécurité, peu à peu, les aéroports ont été... éloigné des villes, mais au départ, au fond, l'aéroport dépendait de la ville, et puis le rapport de force s'est un peu retourné, ce sont les villes maintenant qui dépendent de leurs aéroports. Enfin, et donc, au départ, l'aéroport, au fond, était fondu dans la ville, maintenant, l'aéroport était absorbé par la ville, maintenant, c'est l'aéroport qui absorbe la ville et qui absorbe ses fonctions. On le voyait déjà avec Orly, où les gens aller à Orly pour se divertir, pour consommer, pour voir les nouvelles technologies, etc. Et c'est devenu un peu... Enfin, cette tendance est devenue assez forte. Et il y a des aéroports, au fond, qui sont plus célèbres que leur ville. Par exemple, Francfort, personne n'a jamais mis les pieds à Francfort, et tout le monde est passé par l'aéroport de Francfort, qui est un immense aéroport, etc. Donc il y a certains aéroports, mais quand même plus intéressants que les villes qu'ils côtoient et qui les absorbent. Donc ça, c'est la théorie d'un penseur américain, Cassada, bon, qui parle d'aéro-tropolis, etc., de ville, aéroport, etc. Donc oui, c'est très intéressant de décrire l'expérience urbaine à travers l'expérience de l'aéroport, parce que l'aéroport combine tellement de choses qu'il y a une relative diversité et complexité de ce lieu, étant donné toutes les logiques qui opèrent en lui, quoi.
Là, pour parler un peu, pour partir sur l'ouvrage, effectivement, pour parler d'aéroport, c'est comme un carnet de voyage. En fait, vous prenez plusieurs petites accroches, soit des petits épiphénomènes, ou soit des petits espaces qui sont significatifs donc de l'aéroport. Et ça fonctionne un petit peu comme votre ouvrage Éblouissement des bords de route, où à chaque chapitre, il y avait une caractéristique justement du bord de route. Et ce que on en parlait un peu, c'est ça ressemble en fait, c'est de la philosophie effectivement, mais ce serait une sorte de philosophie emprunt, on va dire, de plein d'autres disciplines. Effectivement, on a l'impression aussi que c'est peut-être une sociologie de cet espace-là, une anthropologie aussi, parce que vous avez d'humain dedans, des comportements. Alors, il y a le comportement de la rage, mais il y a aussi celui de l'attente, où il y a aussi des rencontres humaines. Justement, quand vous dites que dans cet univers qui est universalisant et ou qui est même aseptisé, ce sont les rencontres qui font justement la différence d'aéroport en aéroport. Est-ce que vous, vous avez pris quelle méthodologie peut-être pour écrire ce livre ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes là philosophe ou philosophe un peu anthropologue, même sémiologue, en essayant de décrypter des signes comportementaux ou des signes ne serait-ce que visuels, architecturaux aussi, ou artistiques dans cette enceinte-là ?
Oui, alors c'est marrant parce que votre question me rappelle quand j'avais écrit le livre sur les motels américains, un sociologue de l'HESS m'avait invité à l'HESS à Paris, tout ça. Donc j'avais présenté mon travail sur les motels et à la fin, devant un parterre de sociologues, les sociologues m'ont demandé mais quelles sont vos méthodes, vos statistiques, vos enquêtes de terrain, tout ça. Et je leur ai dit, ben, je n'ai pas de méthode. Enfin, c'est au sens. C'est presque un Apocalypse Now aussi, quand un personnage arrive et voit tout le chaos que le colonel Kurtz a créé. Il dit, je vois ici qu'une absence de méthode. Donc, moi, ma méthode, je dirais, c'est l'absence de méthode au sens où. Alors, il y a quand même une méthode. Il n'y a pas de méthode sociologique, donc je ne fais pas de la sociologie ou de l'anthropologie, c'est-à-dire que je ne me base pas sur des statistiques, des enquêtes disons, de l'immersion de terrain. Non, je fais confiance à mon flair, à mon intuition. Il y a à la fois un travail d'enquête historique, donc bien évidemment, je me suis... j'ai lu des choses sur l'histoire des aéroports, sur l'architecture des aéroports. J'ai remobilisé des références littéraires qui m'avaient frappé ou des références cinématographiques. Donc, je fais un travail comme ça de documentation personnelle. Et ensuite, je fais un peu ma petite cuisine. C'est-à-dire qu'avec mon flair, je me dis, tiens, ça, ce serait intéressant, plus que tel aspect. Donc, j'isole... J'identifie des aspects de l'aéroport. C'est un peu comme des tableaux parisiens de Baudelaire. Donc il y a des petits tableaux comme ça qui traitent, ou des polaroïdes qui traitent de différents aspects de l'aéroport. Et puis ça oscille au fond entre des observations, des remarques littéraires et puis des remarques plus théoriques. Mais à vrai dire, j'ai pas l'impression de suivre une méthodologie très stricte dans ce genre de... Vous savez, par ailleurs, je suis... philosophe, un professeur de philosophie, et où là j'écris des textes philosophiques très avec des contraintes très fortes du point de vue méthodologique. Quand j'écris ces essais-là, au contraire, j'essaie de me libérer de toutes ces contraintes et de, au fond, de concevoir ces genres. De même que les livres décrivent des errances, je dirais réelles d'espace, etc. Il y a une sorte d'errance méthodologique, quoi. Donc, je ne suis pas vraiment une méthode très stricte, mais je me laisse conduire par des impressions, par des ambiances. Parfois, j'extrais un détail, je me dis, tiens, ce détail est signifiant, et je le développe, etc. Mais je n'ai pas vraiment l'impression de suivre comme ça quelque chose qui serait de l'ordre de la méthode. Ou alors, si ce n'est la méthode, en revenant au terme grec, méthodos, c'est le chemin. Quoi, là. Donc, je me laisse... prendre par des cheminements, et puis ensuite, alors, bien évidemment, je remplis des cahiers, etc., de notes, et ensuite je sélectionne, bien évidemment, ce qui va me sembler être le plus pertinent, ou c'est des suites de textes, bien évidemment, il y a une sorte de progression, parce que bien évidemment, on arrive, les premiers chapitres traitent plutôt de l'arrivée, les derniers plutôt du départ, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de méthodologie disciplinaire, quoi. C'est pas de l'anthropologie, c'est pas de la sociologie, est-ce de la philosophie, je n'en sais rien. J'aime bien ne pas savoir ce que je suis en train de faire, en fait, parce que voilà, on est quand même tellement soumis à des contraintes, de règles, etc. Même les livres, voilà, c'est de la littérature, c'est de la sociologie. Moi, j'aime bien, par exemple, ne pas voilà créer quelque chose, des objets un peu hybrides, on ne sait pas trop où les mettre. Alors, de fait, certains chapitres relèveraient plus d'une sorte de récit de voyage, plus d'autres d'une analyse philosophique, d'autres d'un regard sociologique. C'est tout cela sans lettres, etc. Donc, c'est des objets un peu hybrides. Voilà. mais ça me plaît. Puis ça correspond à la manière même dont j'appréhende ces espaces, quoi. C'est-à-dire que quand on est dans ces espaces-là, ben on est tout seul. On est à la fois un voyageur, un observateur, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui se laisse aller, prendre et tout. Donc les livres sont éclatés et multiples parce qu'ils essaient de rendre compte aussi de l'expérience de ces lieux-là qui est aussi éclatée et multiple, quoi. Donc la seule méthodologie, c'est justement d'être fidèle à ce chaos d'impressions qui nous vient et de faire des livres qui respectent au fond ce chaos d'impressions, de ne pas trop les formater dans une approche qui disciplinaire et autre. Bon. Alors, c'est surtout valable pour ce type d'essai. Après, je peux écrire des textes qui, où là, il va y avoir vraiment une sorte d'armature vraiment, disciplinaire.
Et philosophique.
Voilà, voilà. Ouais, ouais. Mais dans ce genre d'essai, voilà, je me laisse, au fond, aller, quoi. Mmh. Parce que voilà, je lâche un peu la bride, quoi.
Ça rejoint un peu peut-être ce que vous avez dit quand vous parliez lors d'une conférence sur la nuit, s'il y avait une philosophie de la nuit.
Oui.
Vous disiez justement la philosophie, que ce n'était pas qu'une réflexion sur des concepts canoniques, mais qu'elle est toujours nourrie par de la non-philosophie.
Oui,
donc
oui.
C'est un peu justement ça que
C'est l'idée de Canguilhem sur la matière étrangère. Au fond, il n'y a pas de matière étrangère pour la philosophie, ou plus exactement, toute matière étrangère est bonne pour la philosophie. La philosophie se nourrit de ce qui n'est pas philosophique. La philosophie se nourrit de la philosophie, bien sûr, de l'histoire de la philosophie. Et bien évidemment, quand on fait de la philosophie, on ne peut pas ne pas connaître Aristote, Kant, etc. Mais elle se nourrit aussi de ce qui n'est pas philosophie. Donc de tout le reste, à savoir les sciences humaines, l'art, les pratiques ordinaires, etc. Et dans ces essais-là, voilà, j'essaie en tant que philosophe de décrire ces lieux, de décrire ces comportements, de décrire ces moments quand nous sommes dans des aéroports et ce qui s'y passe et ce qui nous arrive ou ce qui ne nous arrive pas, parce que souvent il n'arrive pas grand-chose si ce n'est justement la succession des étapes attendues, l'enregistrement, l'embarquement, etc. Donc tout à l'heure vous parliez de lieux aseptisés. Voilà, j'essaie de montrer qu'ils le sont tout en ne l'étant pas, etc. Et que si on observe, on s'aperçoit qu'il y a quand même une plus grande richesse et diversité que l'image un peu massive et uniformisante que l'on en a. Ils le sont, parce que d'une certaine manière, ce sont des lieux tellement complexes qui doivent gérer des flux de voyageurs, des flux d'objets, les bagages, les marchandises qui transitent, des flux d'informations, etc. Donc, bien évidemment, ce sont des lieux où la rationalité moderne est joue à plein. Enfin, c'est même l'emblème même de l'hyper-rationalisation moderne. Tout est rationalisé, tout est fonctionnalisé. Donc, par leur fonctionnalisme, bien évidemment, ce sont des lieux qui imposent au comportement des individus des contraintes très fortes de comportement où tout est balisé, au fond, dans ces espaces-là. Et en même temps, moi, mon rôle, c'est de trouver ces interstices où il y a quelque chose qui pourrait se passer et qui ne soit pas totalement banalisé, normalisé par ces règles, par ces contraintes, etc. Et donc, même ces lieux-là, qui semblent être des lieux où une contrainte très forte pèse sur nous, contrainte sécuritaire, contrainte économique, contrainte même d'usage des lieux, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les aéroports, mon but est de montrer qu'il y a quand même des marges de manœuvre, un peu comme je l'avais fait dans les motels. Les motels, c'est une sorte de lieu fonctionnaliste, etc. C'est de montrer, au fond, que d'emblée, dès que les motels naissent, au fond, c'est des lieux qui sont détournés par des transgressions possibles. Alors, l'aéroport, beaucoup moins. Enfin, le motel permet beaucoup plus de choses, parce que c'est des lieux de la transgression sociale, de différents trafics, des lieux d'adultère, etc. Bon. De planques, tout ce que l'on veut. Enfin, le motel est un lieu qui, d'emblée, est un lieu transgressif. L'aéroport est beaucoup moins transgressif. Pour autant, il y a quand même toujours des zones un peu d'indétermination, d'incertitude. Et ce qui m'intéresse, c'est ces moments-là, un peu de flottement, quoi, dans ces lieux-là, qui, au contraire, semblent peser sur nous comme une chape de plomb ou de béton ou de marbre, parce que, ou de verre, qui sont les matériaux qui sont souvent utilisés dans les aéroports. Ouais.
Justement, sur le chapitre sur un peu pas la rage, mais des personnes qui peuvent décompenser, il est question un peu de ça aussi.
Bien sûr. C'est des lieux où il y a une telle contrainte, surtout d'ailleurs après le 11 septembre. Parce qu'avant le 11 septembre, au fond, il y avait une sorte comme ça de, peut-être de légèreté, d'insouciance du vol. Mais maintenant, les aéroports, enfin ceux qui les dirigent, ceux qui s'en occupent, ont pris conscience de ce stress du voyageur. Enfin, le stress du voyageur a toujours existé, parce que le vol n'est pas quelque chose de naturel, donc il y a toujours l'angoisse de voler. Mais à cette angoisse de voler, c'est ajouté l'angoisse du processus sécuritaire de l'aéroport contemporain. Donc il y a cette angoisse-là. Et puis, comme je l'ai dit, c'est des lieux très normalisés. Donc c'est des lieux où, au fond, vous pouvez pas faire n'importe quoi, et vous êtes d'emblée... Alors, j'indique, hein, y a un moment de chaos, c'est devant l'aéroport. J'indique, voilà, en gros, vous me permettrez l'expression, le bordel, c'est toujours un petit peu les taxis qui sont excités. Mais devant l'aéroport est un lieu un peu de chaos, mais après, ce chaos est très organisé. Et donc, cette organisation, même cette hyper-organisation, pèse sur nous. Et donc, soit... Nous l'acceptons, donc nous, au fond, nous incorporons cette norme, etc. Et puis, on s'en accommode, quoi. Et puis, bien évidemment, pour nous, on compense par l'imaginaire du voyage. On sait très bien que cette contrainte, elle ne vaut que pour une heure, deux heures. Mais ensuite, nous, dès que nous sortirons de l'aéroport, nous retrouverons cette liberté. Donc, d'une certaine manière, nous acceptons temporairement de nous soumettre à des normes très fortes, parce que nous savons que ces normes, au fond, nous protègent, hein, du point de vue de la sécurité, et n'enlèvent pas notre liberté qui sera retrouvée dès que nous... Mais, de fait, beaucoup de gens ne supportent pas. Et donc, j'explique, par exemple, sur YouTube, vous avez toute une catégorie qui s'appelle Airport Rage, quoi, les colères dans l'aéroport. Les gens qui se mettent en colère... Alors, il n'y a pas que les aéroports, bien évidemment, entre deux automobilistes, c'est pareil. Parce que le code de la route, etc., c'est tellement contraignant que des gens, tout d'un coup, ne supportent plus telle contrainte et se mettent dans des colères folles. Mais l'aéroport, c'est spectaculaire. Et sans doute, c'est une forme de compensation de cette incorporation des normes où les gens ne supportent plus cette incorporation et explosent de colère et se mettent... Alors, je décris, hein, vous pouvez aller voir sur YouTube, parfois c'est même très drôle, hein, des gens qui se mettent nus, qui se mettent à crier, etc., des comportements... Oui, parce que c'est tellement contraignant qu'il y a une sorte... Voilà, c'est comme une sorte de soupape de sécurité, puis tout d'un coup, voilà, ça explose, quoi. Le couvercle saute et... Oui, donc les aéroports sont des lieux, surtout après le 11 septembre, qui sont des lieux anxiogènes, en un sens, quoi. Anxiogènes, pas forcément parce qu'on va y avoir toujours un attentat, etc., mais anxiogènes du point de vue de la sécurité. Il ne faut pas avoir oublié ceci, il ne faut pas avoir oublié cela, son passeport, etc. Moi qui ne suis pas d'une nature anxiogène, parfois, bon, ça m'est arrivé, d'ailleurs, il y a 3-4 ans, je suis parti à Venise avec ma famille, mes enfants, les petits, je ne pensais même pas qu'il y avait besoin de pièces d'identité, etc. J'ai juste pris le fichier d'état civil, et donc, et en fait, bon, on a négocié, on a réussi à partir et tout, mais c'est vrai que mon côté un peu insouciant dans ces lieux-là, il n'y a pas d'insouciance, quoi. Donc, parce que c'est du lieu du souci. Donc, il ne faut pas avoir oublié ceci, il ne faut pas avoir oublié cela. Il faut se soumettre à différents contrôles de votre carte d'embarquement, le contrôle de sécurité, les portiques de sécurité. Je parle à un moment donné de ce moment un peu du portique. On a l'impression d'être déjà coupable avant d'avoir rien fait. C'est un moment d'humiliation. Ben, vous devez enlever vos chaussures, vos cifs, enfin, parfois quasiment vous dépouiller devant autrui, etc. Et donc, oui, c'est des moments d'humiliation, quoi. Et donc, l'aéroport exerce quand même une pression psychologique sur les individus par son gigantisme et par cette hyper-normalisation sécuritaire. Alors, c'est compensé par l'imaginaire du voyage, mais parfois les gens ne supportent plus. Hein. Et d'ailleurs, c'est une question même pour ceux qui gèrent les aéroports. C'est-à-dire que comment... L'aéroport a sans doute perdu de son côté glamour. Enfin, ouais. D'ailleurs, quand je parlais de mon travail un peu autour de moi, souvent, cette réflexion venait... Au fond, avant, l'aéroport était un lieu, disons, de l'envol, de l'imaginaire, de la légèreté, etc. Et puis maintenant, c'est un lieu quand même de la lourdeur, vous voyez, de cette lourdeur bureaucratique, technocratique, etc. Et c'est plus un lieu qui suggère comme ça cette fantasmatique du céleste, quoi, de l'aérien, enfin quelque chose qui nous élèverait vers une condition qui n'est plus humaine et il nous ramène à quelque chose de voilà, humain, trop humain, comme dirait Nietzsche, etc. Mmh. Donc, sans doute, l'aéroport a perdu un peu de son glamour. Alors, bien évidemment, il le garde encore, parce que, par exemple, dans l'architecture, il y a des projets architecturaux fabuleux, gigantesques, enfin, un peu incroyables. Bon, et il y a même de bon, Coulas, Andreux, etc. Enfin, des aéroports tout à fait spectaculaires. Mais cette architecture spectaculaire n'arrive pas quand même à transformer ces lieux ou à retrouver, au fond, l'aspect glamour, le merveilleux que ces lieux avaient. D'autant plus qu'avec les problématiques du réchauffement climatique, etc., de nouvelles contraintes vont sans doute peser sur ces lieux qui vont faire des lieux presque de culpabilité plutôt que des lieux du merveilleux. Mais en un sens, il reste encore cet aspect merveilleux, parce que prendre, s'élever dans les airs, etc., relève quand même quelque chose de spectaculaire. Ces lieux même, au fond, quand on les regarde, sont des lieux qui suggèrent quelque chose de l'ordre du fantastique. J'ai consacré un chapitre à Ballard, l'écrivain anglais, qui relève de la littérature un peu fantastique, etc., pour dire, voilà, ça nourrit quand même encore un imaginaire fantastique, mais voilà, il y a des pressions qui et puis des lourdeurs qui s'accumulent, qui font que ce lieu est sans doute un carrefour de son histoire. Enfin, il a vécu une sorte de moment de grâce dans les années 50, 60, 70, puis le premier choc pétrolier est arrivé, on pourrait dire, l'ouverture d'ailleurs au low cost, à la massification, a ajouté, sans doute a détruit un peu le caractère un peu merveilleux de ce lieu, puis au fond le terrorisme international, donc ces différents aspects grèvent un peu ce lieu d'un imaginaire un peu négatif, quoi. Alors que dans les années 50-60, c'était vraiment, il suffisait de voir les publicités, ou comme je parlais d'Orly, voilà, c'était le lieu de l'enchantement moderniste, quoi. Et là, cet enchantement demeure. Mais en même temps, il y a une sorte de magie un peu noire, enfin quelque chose un peu maléfique, quoi, aussi. Donc, d'où l'intérêt, d'ailleurs, parce que c'est justement quand les lieux deviennent philosophes intéressants, quoi, quand il y a ce marécage, ces zones grises, quoi, on ne sait pas trop. Voilà.
Parce que c'est un lieu un peu de tous les paradoxes aussi, c'est un peu pour ça. Enfin, vous dites aussi, à un moment, à force, en fait, ce que vous dites aussi dans d'autres de vos livres, c'est que quand un phénomène a tendance à se répéter, ou la répétition du quotidien, par exemple, on arrive à une sorte de familiarité, un côté familier, une sorte d'assurance, et cette assurance amène à la confiance. Et, alors que pourtant, là, vous avez fréquenté justement les aéroports pendant cette escale, 35 heures de vol, sans compter les heures aussi d'attente, plus de 12 heures parfois, juste entre deux avions. Vous dites même, voilà, plus d'une centaine de cafés, d'une dizaine de bières.
Oui, j'ai fait le compte comme ça. Je me suis amusé à faire des statistiques un peu à la Georges Perec, là, parce que je suis parti 10 jours, et donc je dormais dans mon défi, c'était de ne pas sortir de l'aéroport et de dormir dans les hôtels des aéroports. Et parfois, j'avais des escales très longues à Amman, par exemple. Bon, je devais attendre quasiment 20 heures dans l'aéroport. Et l'aéroport d'Amman, c'est un petit aéroport, bon, sans déjà le golfe Persique et les pétrodollars, etc. En même temps, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, forcément, il y a toujours des boutiques, Armani, tout ça. Bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et bon, donc, et le seul truc qui était amusant, c'est que y a l'aéroport, donc, est assez, assez vaste, assez calme, parce qu'il n'y a pas grand monde qui transite. Et donc, il y avait un salon VIP. Et là, il y avait un Russe qui était en train d'engueuler quelqu'un au téléphone pendant une demi-heure, comme ça. Et on l'entendait brailler dans tout l'aéroport. Et comme il était dans le salon VIP, personne n'osait aller lui dire de se taire. C'est vrai qu'il dérangeait tout le monde. Je suis en train de bouquiner, et puis il braillait tout le temps. Et c'était marrant, cette voix, comme ça. Alors, bien évidemment, tout de suite, moi, j'ai imaginé, voilà, ça va être un mafieux, hein, comme ça. Parce que, bon, je pense que ce qu'il y racontait est très, très vulgaire. Il s'énervait vraiment au téléphone. Forcément, je sais pas, je comprends pas le russe, etc. Donc, c'était amusant dans cet aéroport très, très calme, très luxueux, comme ça, où il y avait beaucoup de pèlerins qui allaient à la Mecque et tout. Donc, presque un moment de recueillement. Ils étaient tous en blanc, comme ça, sans faire le hajj. Et puis, il y avait cette voix russe, quoi, qui braillait, qui vociférait, qui insultait. Donc, c'est des lieux où on ne peut pas se familiariser avec eux. Enfin, ce n'est pas des lieux où on rechercherait l'habitation. Enfin, d'ailleurs, bon, je me méfie un peu, parce que souvent, on parlait d'anthropologie Très souvent, quand on voit les anthropologies des espaces contemporains, le seul modèle, c'est habiter. Voilà. C'est comme si l'idéal d'un lieu, ce serait l'habitation. Mais l'espace a beaucoup plus à nous offrir que l'habitation. Enfin, moi, je ne cherche pas à vivre, je ne vais pas dans des lieux pour y habiter. Enfin, et très souvent, quand je vois dans philosophie de l'espace, anthropologie des espaces contemporains, le grand modèle qui serait l'idéal même de notre appropriation d'un lieu, ce serait l'habitation. C'est-à-dire la familiarité, l'accommodation, l'aisance avec laquelle... Mais je ne conteste pas le fait que habiter soit quelque chose de positif. Je conteste le fait d'appliquer ce modèle de l'habitation à tous les espaces. Qu'on est dans un centre commercial, on n'est pas là pour habiter. Enfin, qu'on est dans un aéroport, on n'est pas là pour y habiter, etc. Donc l'idée que le summum de l'appropriation d'un lieu serait la familiarité, l'incorporation sur le modèle du séjour ou de l'habiter, je trouve ça... Je trouve que cette théorie a des limites, quoi. C'est parce que nos pratiques des espaces sont beaucoup plus diverses que la simple habitation. Et donc, dans l'aéroport, nous transitons, nous observons, nous nous ennuyons, etc. Et il n'y a pas... L'idée, c'est pas d'y habiter. Enfin, je voulais pas. Alors, moi, forcément, j'y habitais pendant 12 jours, enfin 10 jours. Et enfin, je dormais pas d'ailleurs dans les terminaux. Je dormais dans les aéroports, dans les hôtels des aéroports, qui sont d'ailleurs été difficiles à trouver. Enfin, je raconte à Istanbul tout un périple comme ça. En plus, Istanbul, bon, il y a eu des attentats à l'aéroport d'Istanbul. Donc, il y a des militaires partout. Et je cherchais mon Je le voyais d'ailleurs cet hôtel, mais j'avais beaucoup de difficultés à y accéder. Enfin, comme souvent d'ailleurs dans les zones périphériques, vous voyez où vous devez aller, mais en fait, le cheminement est un peu complexe parce que c'est rien n'est fait au fond pour faciliter parfois les déplacements si vous n'êtes pas en voiture, etc. Là, c'était un peu pareil. Donc, j'ai séjourné, etc. Mais mon idée, c'est pas de dire que au fond ces espaces ne permettent pas l'appropriation, l'habitation, le séjour, etc. Non. Il faut prendre les espaces comme ils sont, et il ne faut pas leur imposer, au fond, un seul modèle qui serait le chez-soi, comme si on devait être chez soi. Mais moi, ce que j'aime, c'est justement ne plus être chez moi, enfin, ou même ne plus être moi. Enfin, j'y suis tellement en moi et chez moi que je cherche à m'exproprier, à m'aliéner, à me dépayser. Et donc, ces lieux-là ne sont pas faits pour... Enfin, je parle de l'habitation, parce qu'il y a eu beaucoup de textes d'anthropologues ou de géographes, Auger, Lussot, etc. Et très souvent, le modèle qui revient, c'est habiter. Mais voilà, on n'est pas obligé d'y habiter. Et rien ne suggère que l'on doit y habiter. Et habiter, ou l'habitation, ou l'habitat, me semble pas être le modèle... unique et canonique qui devrait servir de clé de lecture à notre manière de lire l'espace contemporain. Quoi.
Parce qu'on a encore peut-être cette fâcheuse façon de penser l'habitat comme Heidegger ou Hannah Arendt peut-être.
Des gens comme ça, c'est très présent, ce modèle heideggerien, voilà, parce que ce qu'ils entendent par habiter, ce serait l'appropriation. Et tout ce qui serait expropriation, au fond, serait de l'ordre de l'aliénation, serait de l'ordre de la négativité. Par exemple, la notion d'objet de non-lieu, voilà. C'est un non-lieu parce que je ne peux pas me l'approprier, parce qu'il n'a pas d'histoire, il n'a pas de temporalité à moi, etc. Je suis en décalage, etc. Mais bon, quand je suis dans un parking, je ne suis pas là pour y vivre. Hein, et je peux apprécier l'aliénation sans être... Enfin, il y a différents modes d'être aliéné. Il y a des aliénations qui me dépossèdent de ce que je suis. Puis il y a des aliénations qui m'ouvrent à quelque chose qui n'est pas moi et qui me semble être... libératrice, quoi. J'ai remarqué, surtout en plus en préparant cet ouvrage-là, que on s'impose des modèles pour lire les lieux, des modèles qui semblent parfois anachroniques par rapport aux lieux. Il faut parfois, c'est pour ça que le moment d'observation, etc., est important, parce qu'il faut savoir essayer de comprendre, mais quelle est la logique du lieu du point de vue du lieu lui-même et ne pas lui projeter au fond des modèles qui semblent un peu être obsolètes.
Et vous faites justement référence dedans à Marc Auger, oui, et aussi à Duvigneau, et on sent justement que vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette histoire de non-lieu.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord.
Voilà. Donc, est-ce que, parce qu'il y a eu plein de terminologies, parce qu'il y a plein de personnes qui y sont intéressées, Balandier aussi qui parlait d'espace atopique, Michel de Certeau aussi, Deleuze, bon, Foucault peut-être indirectement avec les hétérotopies, encore. Et alors vous, est-ce que ce serait plus un hyperlieu qu'un non-lieu, ou est-ce que ce serait un non-lieu quand même, mais pas habitable alors du coup, mais avec tout ce qu'avait rejeté Auger, ce côté déshumanisant, désociabilisant.
Oui, d'ailleurs, son livre Non-lieu commence par une description de l'aéroport.
Oui, c'est ça.
Donc, ça a été un texte très célèbre, beaucoup traduit, beaucoup lu, et qui a d'une certaine manière imposé une grille de lecture des espaces contemporains avec cette notion de non-lieu. Alors, Auger, enfin, il faut lui rendre grâce, Auger indique que le non-lieu, pour lui, est un idéal type. Hein, c'est pas une catégorie qui décrit la réalité telle qu'elle est. C'est une tendance qu'il voit dans les espaces contemporains. Tendance à la décontextualisation spatiale, à la décontextualisation historique, à l'impossibilité des relations humaines que ces lieux imposeraient, etc. Et enfin, je ne le conteste pas en tant que tel, parce que certains aspects sont justes. Mais évidemment, dans un aéroport ou dans un motel, rien n'est fait pour faciliter les rencontres. Tout est fait pour, au fond, vous isoler comme consommateur d'espace qui va du duty-free à votre porte d'embarquement, etc. Bon, c'est pas des espaces de forum, c'est pas des espaces... Alors, même si les rencontres ne sont pas rendues impossibles, hein, vous pouvez toujours discuter avec les gens qui attendent, etc. Mais ce qui me semble préjudiciable, c'est que, au fond, le motel comme les aéroports, ce qui les caractérise, c'est le passage, c'est la mobilité. Et il me semble que l'approche de Auger ne rend pas compte des logiques multiples et parfois contradictoires des mobilités contemporaines. Quoi. Et dans l'aéroport, d'ailleurs, je vais partir d'un paradoxe. Il y a une mobilité qui est frappante. C'est un espace dans lequel on marche. J'ai jamais autant marché dans un aéroport. Alors que bien évidemment, pour nous, l'aéroport serait un espace quasiment inhumain, précisément parce qu'il empêcherait. Vous voyez, beaucoup de livres de philosophie contemporaine sur marché, etc. Vous voyez, encore l'appropriation de l'espace, la marche, ce serait bien, hein, la voiture, ce serait mal, etc. Mais l'aéroport, de fait, qui semble être le lieu dévolu à une mobilité hyper technique, l'avion, etc. De fait, c'est un espace dans lequel on marche beaucoup. Alors, parce que très souvent, pour aller d'un terminal à un autre, vous devez marcher, puis c'est dans un lieu dans lequel on peut marcher, d'ailleurs, se promener, etc. Alors, il y a d'autres mobilités. Dans un aéroport, vous avez... Là, j'étais encore en voyage, j'étais encore à Bucarest la semaine dernière, je passais par Francfort. Vous avez des voiturettes, vous avez des sept jouets, là je peux comment ça s'appelle, des des gyropodes, voilà. Oui, vous avez des trottinettes, vous avez plein de modes de mobilité, etc. Donc c'est des lieux qui combinent différentes choses, hein, différents types d'espace, différents types de mobilité. C'est des lieux feuilletés, enfin des lieux complexes, etc. Et donc souvent je trouve que les approches contemporaines ils cherchent un terme, hétérotopie, hyperlieu, non-lieu, puis ensuite ils essaient de tout expliquer. Moi justement, j'essaie d'éviter d'avoir comme ça une sorte de concept générique, quoi, qui expliquerait tout.
Les taxinomies ou les
néologismes, c'est un peu fuyant. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher, etc. Non, c'est hybride, quoi. Donc j'ai, même quand j'ai parlé de lieu commun pour les motels, ça valait pour ce lieu-là. Ce n'est pas un terme que j'utiliserais pour d'autres lieux, etc. Donc je crois qu'à chaque lieu, sa singularité, et à chaque lieu, sa logique, ou ses logiques. Alors bien sûr, l'aéroport, il y a des logiques universelles qui les déterminent. Ils ne sont pas des lieux d'une singularité folle, parce qu'ils sont soumis à des contraintes fonctionnelles, à des contraintes économiques, à des contraintes spatiales, etc. Ça, bien évidemment, c'est...
Et juste une petite dernière question avant de passer la parole au public. Dans l'avant-dernier chapitre, qui s'appelle « La fin des aéroports », vous en avez parlé un tout petit peu justement avant. vous parler justement de l'avenir, en sachant que de plus en plus on entend parler d'activistes contre avion, tout ça. Ouais. Il y a Extinction Rébellion, il y a Plane Stupide, et puis il y a le Flycam, je ne sais pas si je le prononce bien, oui, suédois.
Oui, comme je ne parle pas le suédois.
Voilà, ce qui est la honte de prendre l'avion, surtout au profit du train brag qui serait la fierté. Ouais. Alors que pourtant il y a de plus en plus de fréquences. En fait, on voit à Mérignac, par exemple, c'est passé de 7 millions en 2018 pour 3 millions en 2001. Il y a de plus en plus de fréquentations quand même des aéroports. Est-ce que vous pensez, vous, qu'est-ce que vous pensez justement de l'avenir? C'est une question un peu bête, peut-être.
Oui, non, mais je l'évoque.
Cette nouvelle ville du 21e siècle, cette.
Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai préparé ce livre, j'en ai parlé à mes amis. Si j'en avais parlé il y a 2-3 ans, tout le monde m'aurait dit ah, c'est formidable, etc. C'est une sorte de voyage surprenant ou voyage paradoxal, parce que même s'il y a ce côté un peu paradoxal de pas sortir des, mais tout le monde m'aurait dit voilà, quel projet étonnant, etc. Et puis en janvier, quand je me suis vraiment mis à travailler sur ce livre, les gens, la première réaction des gens, c'était oh là là, l'empreinte carbone, quoi. Et ça m'a étonné, parce que même par exemple sur les réseaux sociaux, parce que j'ai envie de leur dire, bah, souvent des gens qui passent leur vie sur les réseaux sociaux, leur empreinte carbone, elle est tout aussi forte en utilisant Internet qu'en voyageant en avion, etc. Toute proportion gardée, mais enfin, on va pas comme ça. C'est marrant d'ailleurs, ton empreinte carbone, ça va devenir une sorte comme ça de. C'est de nouvelles culpabilités. Avant, c'était voilà, il fallait confesser ses péchés. Maintenant, il va falloir confesser différentes empreintes carbone. Enfin, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que le rapport à l'aéroport a changé très rapidement, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a 2-3 ans, ce type de réflexion-là n'aurait pas été présente. Et si j'avais évoqué ce voyage, voilà, j'aurais été encore dans une. Dans des réceptions plutôt laudatives, comme ça. Et là, tout de suite, ça a été. Très peu de gens m'ont dit ah, c'est formidable et tout. On dit oh là, ton empreinte carbone va être importante, parce que forcément, j'ai pris au moins 10 avions en 8 jours. Et le deuxième truc, ah, bon, tu vas t'ennuyer, parce que les aéroports sont tous les mêmes, etc. Alors, l'avenir, bon, c'est difficile. Pour avoir discuté avec des gens qui travaillent dans les aéroports, même qui en dirigent, par exemple des gens d'ADP, etc., il faut savoir que 90% de la population mondiale n'a encore jamais pris l'avion. Donc même si on a l'impression que le trafic aérien est intense, énorme, etc., les gens qui réfléchissent au développement du transport aérien considèrent que, en tout cas, pour le 21e siècle, ça ne va pas régresser, et même ça va s'accentuer. Parce que, bien évidemment, comment pouvez-vous interdire à quelqu'un qui va accéder à, disons, à la classe moyenne en Inde, en Indonésie, etc., de l'empêcher de prendre l'avion pour aller voir Paris, pour aller voir New York, alors que vous, depuis 50 ans, vous êtes allé en Indonésie, à Bangkok, etc. Donc, bien évidemment, je dirais que si on fait de la prospective du point de vue technique, la plupart des experts de l'aviation et du développement aérien disent que ça ne va pas baisser, loin de là, puisque forcément, les gens vont vouloir utiliser ce type de transport, parce que quand vous êtes quelqu'un qui vivait en Malaisie ou aux Philippines, et que vous voulez voir New York, Los Angeles, forcément, vous n'allez pas faire 3 semaines de traversée en bateau. Donc il y a cet aspect-là. Après, il y a effectivement, depuis 2-3 ans, la prise de conscience de plus en plus vive, intense, du réchauffement climatique et des pratiques comme celles que vous avez indiquées, qui viseraient à réduire nos déplacements de type automobile ou de type aérien. J'ai même vu évoquer l'idée comme ça de où on n'aurait droit qu'un seul voyage en avion par an, etc. Bon, sincèrement, je pense que ça n'arrivera pas. Enfin, parce que, bien évidemment, la modernité est quelque chose de complexe. La modernité a un impact industriel, mais la modernité est une libération juridique et individuelle. Donc, vous ne pouvez pas contraindre les gens à les empêcher de voyager, de se déplacer, etc. Donc, il va falloir trouver des compromis entre le respect de la liberté individuelle et le respect de l'équilibre écologique et le respect de la planète, etc. Donc l'idée d'interdiction, etc., non, ça va se faire sans doute. une partie des citoyens vont décider d'eux-mêmes de restreindre, mais à mon sens, ce sera quand même peu, hein, parce qu'on le voit, par exemple, depuis le temps qu'on nous bassine avec les déplacements en vélo, etc. C'est très bien, les déplacements en vélo, mais ça concerne que 8 à 10%, et ça ne progresse pas. Donc je pense que pour l'avion, ce sera pareil. Donc il y aura 8 à 10% des gens qui voyagent en avion qui, eux-mêmes, s'auto-limiteront, ce que j'appelle les protestants, voilà, enfin protestants même au sens luthérien, quoi, qui vont intérioriser. D'ailleurs, c'est pas le hasard si ça vient plutôt d'Europe du Nord, hein, parce qu'ils ont déjà une sorte de culture comme ça de l'auto-culpabilité permanente, quoi, de l'examen de conscience, etc. Et puis après, il peut y avoir des transformations techniques. De l'aviation, etc. Il peut, alors moi, bien évidemment, là, je fais de la fiction, j'imagine les aéroports abandonnés. Il se peut qu'après tout, on trouve d'autres moyens de transport qui ne nécessitent plus... D'ailleurs, c'était le départ. Au départ, l'imaginaire des aéroports, il n'y avait pas d'aéroport. C'est-à-dire, les premiers gens qui ont imaginé des déplacements aériens ont imaginé des avions individuels que vous garez devant chez vous, etc. Vous n'auriez pas besoin d'aéroport. Donc, il y a différents scénarios possibles, quoi. Mais j'avoue que je ne fais pas la prospective. C'est, ce qui est sûr, c'est que l'aéroport a vécu différentes crises que j'ai indiquées, crise énergétique, crise sécuritaire, crise du terrorisme, etc. Sans doute, il va y avoir une nouvelle crise, on peut dire crise climatique, hein, même si on considère que, au fond, le trafic aérien, c'est 2 à 3, voire à 4% des émissions de CO2. Donc, c'est pas négligeable, hein, mais c'est à peu près ce que dégagent les usines à charbon polonaises et allemandes, quoi. Donc c'est bon. C'est moi qui aime bien les avions, l'imaginaire, etc. Je serais plutôt pour fermer ces usines à charbon plutôt que d'empêcher les avions de voler, etc. Après, j'avoue que je suis pas expert en la matière, etc. Mais je crois que l'aéroport, voilà, c'est un espace ouvert. D'ailleurs, les architectes eux-mêmes se disaient qu'il faut construire des aéroports de telle manière à ce que l'architecture elle-même soit ouverte à différentes possibilités d'adaptation, etc. Donc, c'est des lieux qui ont déjà intégré l'adaptabilité. Donc, je pense qu'ils s'adapteront à ces transformations-là. Peut-être à la restriction du développement aérien, mais sans doute pour les lignes. Les petites lignes, etc. Je vois pas. Enfin, ouais. Même si ça aurait un certain charme, mais je pense pas que les gens repartiraient pour des croisières de 15 jours pour traverser l'Atlantique, etc. Donc, en fait, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2-3 ans, ces problématiques-là se posent alors qu'elles ne se posaient pas pour les passagers, ni même pour ceux qui dirigent, au fond, qui s'occupent de la gestion et de l'organisation des aéroports. Mais j'avoue que... Alors après, moi, l'idée que les aéroports soient abandonnés, que ça devienne des ruines, moi, ça m'exciterait pas mal. D'ailleurs, il y a un chapitre
dessus, ouais.
Consacré sur une ruine d'un aéroport qui existe, à Ciudad Real, au sud de Madrid, que j'ai visité, etc. Donc ça ne me dérangerait pas, hein, mais j'avoue que... C'est des lieux qui sont aussi des lieux de revendication. Je raconte quand j'étais à New York, juste au moment de l'investiture de Trump, et donc il avait passé ce décret où il empêchait des citoyens de 8 pays musulmans d'entrer sur le sol américain, ce qui est tout à fait anticonstitutionnel. Il y a un juge qui a considéré que... Et donc, il y avait des manifestations les aéroports peuvent se transformer, ils peuvent se métamorphoser. Mais vous savez, la modernité n'a été que... L'une des grandes caractéristiques de la modernité, c'est l'autocritique. Enfin, ce qui nous distingue fondamentalement de l'âge prémoderne, du 17e, etc., c'est le sens de l'autocritique. C'est-à-dire, l'homme moderne, au fond, c'est quelqu'un qui remet perpétuellement en cause les modèles qu'il instaure, etc. Alors que l'homme traditionnel, il vivait avec l'idée que le sens était donné par l'État, par l'Église, par le roi, par la tradition, par le folklore, etc. Et il s'accommodait de ce sens donné. Nous, dès que nous créons un sens, au fond, nous le contestons, etc. Donc, nous contesterons ce modèle pour en inventer un autre, etc. Donc, et cette autocritique est à la fois une sorte de négativité et d'adaptabilité permanente, quoi. Donc, ils s'adapteront ou on les transformera en autre chose. Bon, Tempelhof à Berlin est devenu une sorte de parc, etc. Mmh. Bon, ouais.
C'est un parc d'attractions, c'est ça?
Non, c'est un parc de non, vous pouvez vous promener, non, plutôt un parc, je dirais, un jardin, jardin avec des cafés, tout ça. Donc, c'est l'aéroport qui a été construit par les nazis, hein, c'est comme ça en demi-arc de siècle. Donc, ça s'adaptera. Donc, mais en même temps, je suis assez peu doué pour le prophétisme. Donc, mais en tout cas, je pense que voilà, c'est des lieux qui effectivement vivent sans doute un moment crucial de leur développement. Quoi.
Merci beaucoup, puis merci.